93.9 Calade.
Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une émission spéciale sur Radio Calade en direct de la salle des Échevins pour les saisons 2023 de la maison Vermorel. Alors, on s'était vu en 2022 à l'automne, il faisait grand beau et là, on se retrouve au printemps. On aurait dû être bien à l'abri des rayons du soleil, sous les beaux arbres, avec de belles feuilles naissantes dans le parc Vermorel, mais la météo, on a décidé autrement. Alors c'est vrai que ce matin, il y avait un grand et beau soleil qui nous laissait peut-être présager d'une belle journée, mais quand vous portez votre regard à l'ouest, eh bien, on voit les nuages noirs s'avancer de plus en plus, et il n'est pas impossible qu'à 15h, l'orage apparaisse à nouveau au-dessus de Villefranche. Alors repli, forcément, repli dans cette belle salle des Échevins pour rencontre aujourd'hui autour de la maison Vermorel. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur cette émission spéciale pour ce printemps de la maison Vermorel, Béatrice Berthoux, voilà, ça y est, j'ai commencé, adjointe à la culture de la mairie de Villefranche et de l'agglomération. Bonjour.
Bonjour.
Et nous accueillons aussi Sarah Loumette, qui est directrice de la culture à Villefranche et aussi à l'Aglo et en charge du projet de la maison Vermorel.
Bonjour.
Bonjour. Cette maison Vermorel, elle est en travaux, en rénovation même, on devrait dire, parce que c'est une maison qui est dans le parc Vermorel, qui était fermée depuis un certain nombre d'années, qui n'était plus utilisée, or qui est une belle maison, un patrimoine important à Villefranche-sur-Saône, en plus par l'histoire de la famille Vermorel. On abordera ça dans un second temps avec Philippe Branche. Et puis en 2007, il y a eu une donation qui a été faite. Je pose un peu le cadre. Et cette donation, alors, c'était pour faire un lieu pour échanger des idées, les diffuser, les partager des émotions, partager l'art dans toutes ses formes, apprendre à voir, éduquer petits et grands et être un pôle de développement majeur et incontournable. Voilà, on vous fait un cadeau, mais voilà ce qu'il faut en faire. Et à partir de là, vous vous en saisissez et il faut en faire quelque chose. Béatrice Berthoux.
Oui, tout à fait. La donation date, vous l'avez dit, de 2007. Et c'est vrai que c'est une grande maison, 1400 mètres carrés, un grand parc de 20 000 mètres carrés. Il est vrai que donc, dès le début, les élus, donc en 2008, ont commencé à aménager le parc, le théâtre de verdure. Puis il y a eu la crèche dans la Villa Suzanne, qui était donc la fille des Vermorel. Et puis, depuis 2014, date à laquelle Bernard Perru m'a confié la culture à Villefranche. Je me suis un petit peu lancé un défi, c'est de répondre aux donateurs. Je connaissais cette maison Vermorel qui est vraiment extraordinaire à l'intérieur comme à l'extérieur, mais je dirais que l'intérieur est encore plus surprenant, art déco, art nouveau, beaucoup d'innovations techniques, une vue sur le parc exceptionnelle, de très belles tapisseries, enfin, tout est des vitraux, tout est vraiment enchanteur, tout est splendide à l'intérieur. C'était une maison d'apparat pour les Vermorel. Bon, Vermorel, Philippe Branche vous en parlera, mais c'est tout Villefranche. Vermorel a marqué, comme d'autres industriels d'ailleurs, la ville. Et cette maison en est donc un bien, je dirais, qui est révélateur et qui est devenu un bien commun. Donc notre objectif, effectivement, a été de réhabiliter cette maison pour pouvoir la réouvrir à nouveau au Caladois.
C'était une maison qui avait une identité forte liée à la famille Vermorel et aux activités de la famille et qui à un moment s'est figée aussi dans son histoire. Et on veut en faire un lieu avec une nouvelle identité, même s'il y a quelque chose qui reste dans la continuité. Mais en tout cas, il faut développer une nouvelle identité et qu'elle soit perçue aussi nouvellement par les habitants et par aussi les gens de passage à Villefranche-sur-Saône. Et ça, c'est un processus long parce que la rénovation, elle n'est pas ouverte vraiment au public. Donc pendant ce temps-là, les gens restent figés aussi dans cette identité ancienne.
On attend.
Et puis, en même temps, il faut commencer à embarquer tout le monde dans cette nouvelle identité. Et c'est là où sont nées un peu l'idée des saisons de la maison Vermorel depuis maintenant 2 ans, hein, si je ne m'abuse, qu'il y a des événements qui sont créés autour de cette maison.
Un peu plus, 3 ans.
C'est un processus long et accompagner cette rénovation d'événements, même si la maison n'est pas encore ouverte, en tout cas c'est pour installer cette nouvelle identité. Et c'est de ça que j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu aujourd'hui. Ça va être quoi cette nouvelle identité de la Maison Vermorel ?
Alors,
à quoi on va l'associer ? Je ne sais pas, dans 5 ans, quand on parlera de la Maison Vermorel, on l'associera à quoi ?
Alors, la maison, effectivement, est fermée depuis 2019, et je vous confirme qu'aujourd'hui, les échafaudages sont à la fois à l'extérieur tout comme à l'intérieur. Donc, elle n'est pas accessible, mais elle le deviendra bientôt puisque les travaux devraient se terminer à la fin de l'année et l'ouverture de la maison devrait avoir lieu l'année prochaine, dans un an. Donc, c'est effectivement pour nous et pour tous les Caladois qui aiment cette Maison Vermorel, je le sais, une très, très bonne nouvelle. Alors, c'est vrai que depuis déjà quelques années, on a beaucoup de propositions dans le parc, l'été, avec le cinéma, avec depuis 2 ans, le cinéma, enfin, depuis l'année dernière, mais cette année encore, et puis surtout les concerts. Ça, je pense que beaucoup de gens les connaissent, puisqu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de moments vraiment sympas dans ce parc. C'est des moments familiaux, avec des jeunes. Enfin, c'est très agréable d'être dans ce parc vraiment de verdure, en plein cœur de Villefranche. C'est une chance. C'est vrai que nous proposons des événements depuis 3 ans. Je laisserai Sarah Lou en parler. Alors, pourquoi ces événements ? Bien, parce que vous parlez d'identité à Vermorel. Nous, on a souhaité quand même garder l'identité de Vermorel, d'abord en gardant le patrimoine, puisque la maison est classée. Donc, ça a été notre premier souhait. On n'abat aucune cloison, on ne change rien. On garde même des pièces témoins de l'époque.
On parle de rénovation.
Donc, on parle bien de rénovation sous le contrôle des monuments historiques. Et donc, en réalité, ceux qui connaissent la maison la verront quasiment de la même façon demain, avec bien sûr un peu plus de lumière et un peu plus de fonctionnalités, parce qu'il en fallait. Et on s'est surtout intéressé au côté novateur, innovant de Vermorel. Et c'est la raison pour laquelle on en fait un lieu où se croisent plusieurs cultures. La culture de la cuisine, parce que c'est quand même important d'avoir un lieu où se restaurer quand on fait des visites ou quand on rencontre des artistes ou quand on va avoir des expos. Un lieu donc artistique aussi, de culture bien sûr. Alors non seulement avec le patrimoine, mais aussi avec cet atelier de résidence. Donc on travaille avec le vivant, les vivants, et on propose au public, à ceux qui viennent, d'être acteurs et non pas d'être passifs, de vraiment faire des rencontres, échanger, peut-être même faire des choses avec l'atelier de le Food Lab, qui sera associé au restaurant. Et puis, nous avons aussi à cœur de réouvrir cette maison aux entreprises, tout comme on la réouvre aux jeunes et aux habitants, parce que dans les étages, eh bien, nous aurons la possibilité de loger des bureaux, donc des entreprises qui pourraient avoir besoin soit de façon ponctuelle, soit de façon moins ponctuelle, au long cours, des bureaux. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de redonner vie à cette maison en suivant quand même un peu les préceptes de Victor Vermorel, qui était lui-même innovant et souvent en avance sur son temps.
Et pour apporter cette nouvelle identité, pour lui apporter aussi cette nouvelle vie à cette maison, il y a tous ces événements qui sont créés, donc les saisons de la Maison Vermorel. On en parlera avec vous dans quelques instants, Sarah Loumetch. On verra un peu le programme de ce qui nous attend pour, en tout cas, la saison prochaine, l'été, qui va arriver bientôt. Et là, au printemps, alors c'est aujourd'hui, c'est un événement qui s'appelle les Tables Vermorel, sur le pôle cuisine gastronomie, puisque c'est en ce moment même. C'était prévu dans le parc, mais à cause de l'orage qui arrive par l'ouest, je vous rappelle, c'est à la salle des Échevins. Il y a un restaurant, salle des Échevins,
oui,
là, aujourd'hui.
C'est ça.
Avec plusieurs chefs, plusieurs établissements renommés. Alors, l'établissement Tête-d'Oie de Lyon avec Christian Tête-d'Oie, mais aussi 7 établissements de Villefranche-sur-Saône et des alentours pour offrir un parcours gastronomique, une découverte gastronomique en ce moment même à la salle des Échevins. Et ça s'inscrit pour donner cette identité gastronomie et culture culinaire.
Voilà, en fait, la gastronomie, le culinaire, c'est déjà une chose. Et puis, il y a aussi le travail qui a été réalisé par le collectif Ligre. Et puis aussi, tout au long de la journée, on pourra découvrir le travail d'Yves Dimier, qui est dans le parc, mais qui est aussi installé dans la salle des Échevins au final. Et puis, le travail de Vincent Bride, pour ceux qui vont pouvoir visiter l'atelier d'artiste, mais c'est sur réservation, je tiens à le préciser. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de place pour accueillir comme ça au long cours.
11h30, ouais. C'était 11h30 ce matin. Il y a une autre visite qui est donc ouverte à 15h30 cet après-midi pour l'atelier de Vincent Bride. Donc n'hésitez pas à venir à 15h30 pour l'atelier.
Alors pas du coup pas au parc Vermorel, on précise
bien. Vermorel,
ah, si,
si,
au parc Vermorel,
puisque c'est ce qui reste en fait.
L'atelier, lui, il est
l'atelier
ouvert.
L'atelier Vermorel avec l'artiste qui est en résidence, qui est un artiste verrier, souffleur de verre. Et si vous voulez le visiter avec lui, c'est 15h30 cet après-midi.
D'accord. Et puis aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont possibles à faire. Malgré l'annulation au parc, il y a un certain nombre de choses qui sont à voir et à écouter ici à la salle des Échevins. Est-ce qu'on peut en parler un peu, Sarah Lemaitre?
Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, en effet, ils peuvent nous rejoindre à 14h30 pour une conférence de Christian Tête-Doigt, puisqu'effectivement, Christian Tête-Doigt nous a fait l'honneur de nous accompagner sur toute cette aventure culinaire et artistique tout au long de l'année. Et à 15h30, on a une compagnie qui s'appelle le Théâtre en Pierre Dorée, qui va partager une étape de création théâtrale sur la vigne, qui s'appelle Terre et Toit. Donc à 15h30 aussi, salle des Échevins. Les rendez-vous de 14h30 et 15h30 sont entièrement gratuits, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y aura de la place aussi pour ceux qui n'ont pas mangé au repas des tables Vermorel. Et enfin, à 16h30-17h, certainement plutôt 17h, une rencontre avec 5 viticulteurs qui s'installeront dans la salle des Échevins pour une rencontre dégustation pour clore la journée.
Et puis bien sûr, deux expos aussi à voir.
Deux expositions. L'exposition d'Yves Dimier, comme disait Mme Berthoud, qui est une partie de l'exposition donc, qu'il a faite, puisque vous pourrez découvrir son exposition à lui jusqu'au 31 août dans le parc Vermorel, malgré le fait qu'on ne puisse pas l'ouvrir aujourd'hui. Et ici, à la salle des Échevins, on peut découvrir le travail qu'il a fait avec un ensemble de jeunes et d'élèves tout au long de l'année, puisqu'on est toujours dans cet esprit de travailler aussi sur l'éducation et la transmission.
Ce qui était la demande du donateur.
Voilà, tout à fait. Ah oui, on s'inscrit bien dans la donation de ce point de vue-là.
La culture, mais dans la transmission pour les petits et les grands. Donc là, c'était plutôt pour les petits.
Tout à fait. Et dans le même esprit, l'exposition du collectif Ligre, qui lui aussi a travaillé avec le collège Faubert, le collège Jean Moulin, le lycée Louis Armand et des habitants tout au long de l'année pour recueillir ce qu'on a appelé les mémoires culinaires, donc des recettes de cuisine qui font penser à des périodes de vie aussi ou des transmissions avec la grand-mère. Avec... Il y a plein d'histoires assez sympathiques à découvrir et sur des tableaux d'exposition en réalité augmentée, puisque c'est aussi tout le propos de rendre hommage à Victor Vermorel en parlant d'innovation et en utilisant des technologies qui aujourd'hui sont innovantes dans le milieu artistique, donc notamment la réalité augmentée.
Et puis, saison prochaine, l'été qui arrive à grands pas. Alors, l'été commence officiellement
le 8 juillet au parc.
En tout cas, le 21 juin.
Ah oui, officiellement,
sur le calendrier. Mais l'été Vermorel, lui, commence le 8 juillet.
C'est ça, l'été au parc. On vous donne rendez-vous le samedi 8 juillet pour le lancement vraiment de l'été. De 15h à 22h au parc, donc avec une journée familiale où vous retrouverez le musée d'Igny qui propose son artobus, un atelier de jeux, la compagnie Debout sur le toit pour des lectures, un concert pour le jeune public à 18h, ce qui est la première fois qu'on propose avec le même partenaire Crazy Cats que pour l'été, un concert destiné spécialement au jeune public. Et puis enfin, on clôturera la journée par le collectif Misfits qui nous proposera sa dernière création, qui est une création pour les tout-petits à partir de 4 ans. Donc ça, c'est la journée de lancement de l'été. Et puis, on retrouvera les deux points importants de chaque été, qui sont le cinéma en plein air du 29 juin. Donc, ça commence d'ailleurs un petit peu avant le 8 juillet. Le 29 juin est décentralisé, puisqu'on sera donc place des Arts pour ce Vermorel hors les murs, le 29 juin, pour le film La saveur des ramen, place des Arts à 21h30. Et ensuite, tous les jeudis de l'été, dont vous retrouverez le programme détaillé, donc 6 juillet, 20 juillet, 27 juillet, et puis ensuite on fait une petite pause et on reprend le 24 août et le 31 août. Donc des films qui, à chaque fois, parlent de cuisine, puisque c'est un festival qui s'appelle Les petits plats dans l'écran, qu'on a concocté avec le cinéma Les 400 coups pour
avec
vous parler de gastronomie.
Très joli programme. Moi, j'ai déjà regardé le programme, j'ai un coup de cœur dedans, un film que j'ai adoré.
C'est lequel ?
The Lunchbox.
Ah voilà.
Une histoire magnifique, vraiment.
D'accord.
Bon, alors c'est tout à fait subjectif, hein. Mais en tout cas, il y a un très joli programme. Effectivement, on peut en citer quelques-uns. Le sens de la fête avec Jean-Pierre Bacry, Délicieux, La Brigade, ici aussi, qui est un film qui parle de réinsertion de jeunes autour de la cuisine. Ça fait un peu écho avec ce qui s'est passé aussi ici pour la préparation de ce repas là, qui est en train de se passer.
Avec les collégiens, oui.
Et puis, La saveur des ramen, qui est là aussi un film tout en émotion et en
simplicité. Et un grand classique, L'aile ou la cuisse, qu'on devait programmer l'année dernière et qui, en raison de la pluie, a été déprogrammé. Donc, on reprogramme cette année.
Pour venir rire en famille.
Voilà. Et puis, une petite pépite aussi, avant chaque séance, qu'on n'avait pas l'année dernière, on aura ce qu'on a toujours dans le projet des mémoires culinaires que vous voyez aujourd'hui à la salle des Échevins aussi, des films qui parleront, qui donneront à voir des recettes ou des récits de vie avec des petits films en avant-séance de chacune des séances de cinéma plein air. Voilà.
Donc ça, c'est pour la partie cinéma. Ciné. Match. Mmh. Mais il n'y a pas que ça.
Après, on a la partie musiques actuelles. Donc, comme chaque année, on accueille des concerts. Donc là, c'est du 22 juillet au 26 août au Parc. On travaille toujours avec notre partenaire Crazy Cat sur cette programmation qui déménage un petit peu et voilà, s'adresse vraiment à tous les publics, mais esthétique rock, blues rock, chanson, pop, néo-soul, soul, blues. Et on a même du groove du désert avec le groupe Tigadrine le 19 août. Donc ça, c'est les samedis, samedi 22, 29 juillet, samedi 5, 19 et 26 août.
Donc là, une belle programmation pour venir tranquillement, profiter de la musique le soir, en espérant profiter de la, de la fraîcheur qui va s'installer après peut-être des journées très chaudes, on ne sait pas. En tout cas, voilà, la possibilité de pouvoir profiter de tout ça. Et puis, il y a aussi d'autres choses qui sont prévues autour du côté artistique, du street art, des concerts de chorale, enfin en tout cas tout un tas de tout un beau programme. Ouais, ouais. Alors il y a un beau programme qui est sorti, qui s'appelle les Saisons Verborel. On peut le trouver facilement, j'imagine, à l'accueil de la mairie.
À l'accueil de la mairie, ou... sur différents points de diffusion, sur tous les lieux culturels de la ville.
Et puis sur, sur le site aussi.
Et sur le site aussi, bien sûr. Simplement. Et on, oui, une petite info importante que j'ai oublié de dire tout à l'heure à l'ouverture, donc je me rattrape à la radio. On lance nos réseaux sociaux aujourd'hui, oui. Les réseaux sociaux Maison Vermorel. Donc avec une page LinkedIn, une page Instagram, une page Facebook dédiée vraiment au projet Maison Vermorel. Et on les lance aujourd'hui. Donc à partir de mardi, vous pourrez avoir un retour en image sur justement les différents temps de la semaine dont on vient de parler.
Donc on peut commencer à liker.
Donc, likez.
Merci Béatrice Berthoux. Merci à vous aussi, Sarah Lumet.
Merci.
Avant de retrouver Philippe Branche pour faire un petit moment d'histoire autour de la famille et de la maison Vermorel, nous allons faire une pause musicale et on se retrouve dans une poignée de minutes.
Parle-moi de ta voix, pareille à l'eau courante, lorsque s'est ralenti le souffle des aveux. Dis-moi tes mots railleurs, et cruels si tu veux, mais berce-moi de là, mélopée enivrante, de ce timbre voilé qui m'attriste et m'enchante, lorsque mon front s'égare en tes vagues cheveux. Exprime tes espoirs, tes regrets et tes voeux, ô mon harmonieuse et musicale amante. Ta forme est un éclair, ton sourire est l'instant. Tu fuis lorsque l'appel t'implore, ô mon désir. Ta forme est un éclair qui laisse les bras vides. Ton sourire est l'instant que l'on ne peut saisir. Tu fuis lorsque l'appel de mes lèvres avides t'implore, ô mon désir. Tu frôles sans étreindre, ainsi que la chimère, vers qui tendent toujours les vœux inapaisés. Rien ne vaut ce tourment, ni cette extase amère, de tes rares baisers. Et moi j'écouterai ta voix et son doux chant. Je ne comprendrai plus, plus j'écouterai cherchant. Sinon l'entière oubli, du moins la somnolence. Car si tu t'arrêtais, ne fût-ce qu'un moment, j'entendrai, j'entendrai, au profond du silence, quelque chose d'affreux qui pleure horriblement. Exprime tes espoirs, tes regrets et tes vœux, mais berce-moi de là, mélopée enivrante. Ta forme est un éclair qui laisse les bras vides. Ton sourire est l'instant que l'on ne peut saisir. Tu fuis lorsque l'appel de mes lèvres avides t'implore, ô mon désir, t'implore, ô mon désir. Ta forme est un éclair qui laisse les bras vides. Ton sourire est l'instant que l'on ne peut saisir. Tu fuis lorsque l'appel de mes lèvres avides t'implore, ô mon désir, t'implore, ô mon désir.
Vous êtes toujours à l'écoute de Calade. Nous venons d'écouter Ezekiel Payès et son morceau Mélopée en direct depuis non pas le parc Vermorel en raison des gros nuages noirs qui arrivent par l'ouest et du risque d'orage qui commence vraiment à nous menacer. On se retrouve ici, alors tiens, dans un lieu, Philippe Branche, bonjour.
Bonjour.
Dans un lieu historique aussi.
Oui, on reste dans un lieu historique, un peu plus ancien même. Puisqu'on est en fait dans l'ancienne grande salle de l'Hôtel Dieu, qui a été transformée en salle de réception, la salle des échevins. Et donc oui, on est en plein cœur du Villefranche historique aussi.
Donc on reste dans un lieu d'histoire malgré tout.
Exactement.
Dans un lieu d'histoire.
Voilà. Là, on est au XVIIe siècle. Vermorel, c'est un peu plus récent, mais.
Philippe Branche, vous êtes. Historien, on peut le présenter comme
oui,
ça.
Oui, donc je suis amateur d'histoire sur le Villefranche, bien sûr, et le Beaujolais en général. C'est ma passion depuis longtemps.
Donc, voilà. Donc, quand on est passionné d'histoire, on est raconteur d'histoire aussi.
Oui, on essaye. On essaye de transmettre un petit peu et puis intéresser les gens à leur propre passé.
Et aujourd'hui, c'est un peu pour ça qu'on vous a invité, c'est qu'on s'intéresse forcément dans ces saisons de la maison Vermorel, mais à la famille Vermorel, à cette maison Vermorel. On a eu déjà l'occasion, sur les précédentes émissions, de parler un peu de cette maison, de ce patrimoine,
oui,
de cette famille.
Ouais.
On a parlé de tout ce qui a été, ce qui a fait l'économie de la famille Vermorel, les différentes. Les voitures d'un côté, voilà. D'autre côté le matériel pour la vie.
Côté industriel un petit peu de la production de l'entreprise Vermorel. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses. Je veux dire, le personnage est tellement riche qu'on peut un petit peu.
Oui, parce que c'était un grand quelqu'un qui.
Voilà. Disons que bon, il a réussi au niveau industriel, mais au départ, c'est surtout un grand curieux. Donc la fin du 19e siècle, c'est aussi la période où tout explose, je veux dire, au niveau de l'industrie, les techniques, etc. Et Victor Vermorel était toujours passionné par ça, et était toujours à la pointe, en fait. Donc ce qui lui a permis de réussir professionnellement, mais aussi réussir dans beaucoup d'autres domaines.
Qui dit réussite économique dit aussi que c'était une famille qui avait les moyens. Et que ces moyens-là, ils en ont fait aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont réinvesti.
Voilà, tout à fait. C'était un peu le principe
fortune,
de Victor Vermorel.
Je ne sais pas si on peut parler de fortune.
Je
ne
veux pas
cas.
Dire que ça ne l'intéressait pas, parce que, bon, si, ça l'intéressait, bien sûr, la réussite économique. Mais ça lui a permis aussi de développer donc, ses idées autres, je dirais. Et notamment, par exemple, la station viticole. Donc, les gens le connaissent maintenant un petit peu, ce grand bâtiment, boulevard Vermorel, qu'on appelle toujours d'ailleurs 210 en Beaujolais. Puisque c'est un des créateurs en fait, du syndicat agricole et viticole. On est en pleine période du phylloxéra qui a décimé un peu la vigne dans le Beaujolais. Et en fait, Victor Vermorel est arrivé un petit peu au bon moment, entre guillemets, pour un petit peu essayer de sauver la vigne, donc l'économie aussi du Beaujolais. Et donc, il a eu l'idée de créer cette station viticole. Donc, il avait fait une première tentative à côté de la maison, où il y a maintenant les bâtiments des Nouvelles Roches, où il fera un petit peu plus tard son usine. Et il avait une maison en fait, qui était ouverte en fait, à tous les chercheurs. Et avec les relations qu'il avait, parce qu'il entretenait des relations avec des savants du monde entier. Et donc il a créé cette station viticole qui était une sorte de, on pourrait dire, de Villa Médicis, un petit peu de la viticulture, mais aussi tournée vers la botanique, vers la faune, enfin tout ce qui était un petit peu les sciences du vivant. Voilà.
Donc il y avait cette partie-là, la recherche et trouver des solutions pour ce qui, à un moment, mettait en péril le monde de la vigne. Et puis il y avait aussi ces autres centres d'intérêt qui étaient aussi l'art, la culture, pour lesquels aussi il a développé du mécénat.
Oui, tout à fait. C'était sinon le plus gros, oui, on peut dire le plus gros mécène à Villefranche, dans tous les domaines. C'est vrai qu'il a, d'origine, on a dit qu'il a fait fortune, mais il a vraiment commencé très modestement. Et donc, il a gardé beaucoup de liens. Il était très aussi, au niveau, je dirais, des idées, très républicain. Donc, il a beaucoup aidé tout ce qui était société, à la fois... la société de musique, société de gymnastique, c'était un des plus gros mécènes. Il était président d'énormément de sociétés, président d'honneur, etc. Et un gros donateur.
Et quand on voit l'intérieur de la maison Vermorel, on voit aussi que c'était un amateur d'art. Parce que
oui,
il a,
tout à fait.
Il a essayé de faire... Il y avait une recherche artistique, ne serait-ce que dans l'agencement et dans la décoration de cette maison.
Au niveau de l'architecture, etc. Donc Alfred Rome qui a fait sa maison, mais c'est vrai qu'il a épuisé, entre guillemets, pas mal d'architectes avant de trouver la bonne formule. Au niveau des arts, il était ami intime aussi avec Camille Saint-Saëns, le compositeur de musique. Une des choses les plus connues avec lui, c'était aussi ses liens avec la famille Lumière, avec le père au départ, et puis après avec les deux fils Lumière. Et c'est vrai que
il devait apprécier cette innovation.
Mais c'est vrai que lui, qui était plus tourné vers la technique, donc il a collaboré avec les frères Lumière au niveau cinéma, par exemple, pour faire ses essais aussi. Donc c'était tout lié en fait l'industrie, etc. Parce que il essayait en fait de détourner les nuages de, on sait de quoi on parle en ce moment, les nuages d'orage et la grêle qui fait tellement de ravages dans dans la vigne. Et donc il filmait en fait parce qu'il avait inventé des canons paragrêle. Qui n'était pas très très efficace, mais enfin bon, à ce moment-là, ils y croyaient encore. Et donc, lui, il essayait de comprendre le système de ces canons en les filmant donc avec les frères Lumière. Alors, on n'a pas retrouvé les films encore, mais on a les traces.
On était dans une période, à un moment, le contexte était une explosion de technologie, de technique, et on pensait pouvoir tout maîtriser.
On essayait tous azimuts, en fait. Donc, je vous dis, il essayait de filmer, en fait, la production de ces canons, mais aussi, il avait installé aussi des cerfs-volants, par exemple. Donc, des cerfs-volants météo qui lançaient depuis son parc. On a des images qui sont assez... je dirais croquignole, quoi, parce que quand on voit ça maintenant, on se dit mais à quoi il jouait. Il avait une station météo dans son parc, donc il avait créé tout un tas de revues, parce qu'on connaît moins le Victor Vermorel, le patron de presse, puisqu'il avait créé 4 ou 5 revues, journaux, etc. Il avait racheté La Voix de l'Ain à l'époque pour avoir son journal. Et donc, il diffusait tout un tas d'informations, etc.
Est-ce qu'on a des indications ? Est-ce qu'il y a des traces, des écrits qui parlent un peu du caractère, du type d'esprit qu'il avait, Victor Vermorel, de son rapport aux autres ?
Très peu, malheureusement.
Est-ce que c'était quelqu'un de très sociable ?
Très bonhomme, oui. Enfin, je veux dire, le peu de témoignages qu'on a sur lui, oui, c'est quelqu'un de très avenant. Et puis, c'est vrai que son origine, je dirais, son origine modeste faisait que, je veux dire, entre guillemets, il pouvait parler à tout le monde, quoi. Et c'est vrai qu'il avait de très bons rapports, je veux dire, avec le monde ouvrier, puisqu'il a créé aussi des villas pour les ouvriers, pour ses cadres dans toute Villefranche. Et le parc immobilier Vermorel, l'inventaire reste à faire encore. Mais c'est vrai qu'il avait des propriétés un petit peu de partout. Et c'est vrai que, voilà. Et il avait toujours des idées. Puisqu'il y a une anecdote qui se raconte sur lui. Il aimait bien, il avait son bâton, sa canne. Et donc, dans la cour, il disait, j'ai une idée. Et il traçait au sol comme ça. Et ses ingénieurs regardaient. Et disaient, tiens, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin bon. Et ça, voilà. Les idées fusaient non-stop, quoi.
C'est un genre d'Elon Musk qui a la doigt avant l'heure, quoi.
Voilà, voilà.
Je ne sais pas si la comparaison est heureuse.
Bah écoutez, je ne sais pas.
Qui regarde dans tous les sens, qui s'intéresse à plein de choses, quoi.
Voilà. Et puis c'est vrai que Elon Musk, il arrive à une révolution industrielle qu'on nous prédit encore plus importante que celle-ci. Mais c'est vrai que là, c'est l'arrivée de l'électricité, c'est l'arrivée de la photographie, c'est l'arrivée de beaucoup de choses aussi, de l'automobile. Et c'est vrai que lui, il en a vraiment profité pleinement.
Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'héritage de Victor Vermorel, à travers notamment cette maison et ce parc. Mais son héritage industriel, son héritage économique et j'allais dire même son héritage technologique, tout ça, c'est un peu délité, malheureusement.
C'est-à-dire que surtout, j'allais dire en ce moment... puisque c'était un peu le traitement de la vigne. Et c'est vrai que maintenant, l'agriculture, en ce moment, part un petit peu dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire que...
Mais en tout cas, il n'y a personne qui a réussi à continuer à faire fructifier correctement.
Souvent, ce genre d'entreprise, il faut qu'il y ait, comment dire, je ne sais pas, je prends un exemple, par exemple, les Michelin, qui ont commencé un petit peu à la même époque. Il faut qu'il y ait aussi une descendance qui continue un petit peu le mouvement.
Oui.
Voilà. Et puis, il faut être aussi conscient que la famille Vermorel a subi aussi des drames dans la famille qui ont un petit peu perturbé cette transmission, je dirais. Parce que Victor Vermorel a perdu son deuxième fils, qui était un passionné d'alpinisme, et qui s'est tué dans les Alpes, à l'âge d'une un petit peu plus de 25 ans, je crois. Donc ça a coupé, il a perdu une fille aussi, et il a perdu son petit-fils, qui était promis, je veux dire, à reprendre l'entreprise, Tito, qui s'appelait Victor comme lui, mais on l'appelait Tito pour différencier de son grand-père, et qui est mort dans le Vercors en la Deuxième Guerre mondiale.
Donc forcément, derrière, il n'y avait pas de ressources.
Voilà, les ressources au niveau familial pour reprendre l'entreprise. Et c'est vrai que...
C'est l'innovation qui a fait tourner cette
exactement.
Cette
donc
entreprise,
il
donc sans quelqu'un pour prendre cette
là. Et puis, il y a peut-être eu justement, par rapport à ces drames, ils n'ont pas su, je veux dire, prendre le virage au bon moment, quoi. Voilà, on dira ça comme ça. Et l'automobile s'est resserré, donc l'automobile a été arrêté tout de suite à la mort de Victor. C'est pas là-dessus qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, hein, mais c'est vrai que pour le prestige, c'était très bon. Mais c'est surtout, oui, au niveau de l'innovation, voilà, ça c'est un petit peu, délité dans les années 60, quoi. Voilà.
Sait-on jamais, peut-être que. Il y aura dans 50 ans des voitures électriques Vermorel qui seront les plus performantes qu'on pourra trouver.
Bah, c'est un peu le principe un petit peu de ce qui est mis en place en ce moment. Quoi. Voilà, on essaie de raviver la flamme Vermorel.
Merci Philippe Branche.
Merci à vous.
Pour ce temps de partage autour de ce personnage,
oui,
et de cette famille.
On aura l'occasion d'en reparler.
J'imagine.
Voilà. Je vous remercie en tout cas.
Merci à vous. Restez avec nous sur Calade. On continue nos interviews ici en direct de la salle des échevins dans le cadre du printemps de la maison Vermorel qui se tient pour des raisons météorologiques ici à la salle des échevins. On fait une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes avec de nouveaux invités.
Calade.
Ah si j'étais riche, j'irais construire des petites maisons dans les prairies. Si j'étais riche, ah si j'étais riche, j'irais faire le tour du monde avec ma chérie. Si j'étais riche, je lève un verre à ma santé, à la tienne aussi. Si tu veux mon assiette, c'est la tienne aussi. Quand j'ai été payé, je dégaine la Fortis. Comme si j'étais 50, comme si j'étais Curtis. Le resto c'est pour moi, les pourboires aussi. Je te connais pas vraiment, je paye pour toi aussi. J'ai pas de permis, je loue une A6. Solde 0,36 avant le 26. Avant tout le partage, y'a des valeurs auxquelles je me rattache. Depuis l'époque de Jackass, depuis l'époque où on se prêtait nos atlas. Il prêtait pas son atlas, donc il restait seul au fond de la classe. Faut pas se voiler la face, tu finiras bien par céder ta place. Ah si j'étais riche. Si j'étais, ah si j'étais, si j'étais, ah si j'étais riche, j'irais construire des petites maisons dans les prairies. Si j'étais riche, ah si j'étais riche, j'irais faire le tour du monde avec ma chérie. Si j'étais riche, 104 BPM comme unité Don Bosco. J'achète une île pour moi et mes frères si je gagne au loto. À quoi ça sert de garder tout pour soi? Mentalité grand frère, grand François. On n'aime pas les radins, on traîne pas avec eux. Tous monnaie mais le respect s'achète pas. Dis-moi, tu vas faire quoi? J'aurai pas de jardin, j'aurai une forêt. Et tous les matins, j'irai dans le lac. Si je te vois jeter ton mégot par terre avec mes claquettes, je te mets des claques. J'aurais pas de voisins, j'aurais que des frérots.
J'aurais pas de voisins, j'aurais que des frérots.
Mais là je vais taffer, là je suis dans le métro. Ah si j'étais riche, j'irais construire des petites maisons dans les prairies. Si j'étais riche, ah si j'étais riche, j'irais faire le tour du monde avec ma chérie. Si j'étais riche,
Ah si j'étais riche. Si j'étais riche. Ah si j'étais riche.
Vibration Calade.
The walk is spinning, cannot stop it, never stop it. Seems like everything is certainly coming to a head. I'm gonna turn it around, keeping my feet on the ground.
Nous sommes toujours en direct depuis les parcours de la Maison Vermorel pour le printemps culturel et gourmand. Alors, en raison du temps très très incertain, ces rencontres ne se tiennent pas dans le parc Vermorel comme prévu initialement, mais en centre-ville de Villefranche, tout près de la place des Arts, dans la salle des Échevins. Et j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Bride, artiste verrier, qui est en résidence à l'atelier Vermorel. Bonjour Vincent.
Bonjour.
On se rencontre pour la troisième fois. Alors, on va se donner un challenge tous les deux. On va essayer de ne pas répéter ce qu'on a déjà dit.
D'accord. Ça vous va ? Évidemment, il y en a qui ont peut-être la mémoire.
Si, on est obligé quand même de recontextualiser. Donc, vous êtes en résidence. Peut-être que c'est important de dire ce que ça veut dire d'être en résidence pour un artiste.
Alors, être en résidence, c'est surtout être en immersion dans un lieu avec un sujet précis. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de développer une œuvre d'art pour la Maison Vermorel. Et de ce fait, je suis effectivement en résidence à l'atelier Vermorel qui se trouve à côté de la Maison Vermorel.
Donc ça, c'est une première partie de cette résidence et de ce qui est attendu de vous, de créer une œuvre. Mais comme on l'a dit, la Maison Vermorel, c'est aussi une volonté de transmission. Donc à côté, il y a aussi des ateliers qui sont proposés par vous autour du verre.
Exactement. Donc il y a un certain nombre d'ateliers qui ont déjà eu lieu dans cette année passée. Donc j'ai accueilli dans mon atelier dans les Monts du Lyonnais des classes de l'agglomération. Donc, mm-hmm. il s'agissait de CE1 à des classes de lycée. Donc, qui sont venus pour des demi-journées à l'atelier où ils ont découvert un petit peu le travail du verre soufflé, du verre sculpté à chaud. Et ils ont découvert un petit peu la manière dont je travaille avec le verre et comment je travaille avec mes clients. Donc, en l'occurrence, il s'agit essentiellement de travailler avec des artistes et de développer des projets artistiques. Donc, il y a bien évidemment mes propres œuvres d'art que je développe, mais je travaille aussi pour des artistes, donc pour lesquels je fais plutôt du soutien et du développement de leurs projets à eux.
Le verre, c'est un matériau ultra présent dans notre quotidien.
Tout à fait, oui.
Que ce soit là, devant les yeux, j'ai un téléphone portable, voilà, il y a du verre.
On regarde souvent à travers les vitres.
Devant nos yeux, on a des lunettes. Alors ça, parfois, alors peut-être de moins en moins, les verres sont en verre, mais en tout cas, voilà, il y a des vitres, il y a énormément de choses. Et pourtant,
c'est un matériau omniprésent. Oui.
C'est un matériau omniprésent, mais qui reste encore finalement assez inconnu. Quant à ses enfin, je parle par le grand public, quant à ses propriétés, par exemple, de résistance, élastique.
C'est un matériau très mystérieux en même temps. Hein.
Presque alchimique, non ?
Bah oui, il y a un côté très, très étrange. Et même les verriers qui ont travaillé le verre toute leur vie, qui sont nés dans une verrerie et qui, le jour sur leur lit de mort, ils sont enfin avant de donner leur dernier souffle, si on peut dire ainsi, sont obligés de reconnaître que le verre, ils n'ont rien compris, quoi.
Ouais. C'est alchimique parce que déjà, il y a trois, on va dire, choses fondamentales. Il y a la terre, l'élément terre, l'élément feu et l'élément air qui rentrent.
Tout à fait, voilà. On part de la terre puisqu'on travaille avec de la silice. Voilà, on a introduit le souffle. Voilà, on travaille à la main et effectivement, c'est un matériau qui est assez essentiel, on va dire fondamental, qui existe depuis le début de l'humanité quasiment. Et dont on n'a toujours pas cerné effectivement son existence, la façon dont on peut vraiment l'exploiter au maximum. En fait.
Vous, en tout cas, vous en avez fait votre moyen d'expression, de médiation, de création. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les contraintes que vous donne le verre en tant que matériau brut à travailler ?
Alors, c'est une question assez complexe parce qu'il y a énormément de contraintes dans le verre parce qu'en fait, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec le verre. Et on s'en rend compte, même moi, là, au bout de 30 ans de pratique avec le verre, c'est le verre qui nous impose en fait, d'une certaine manière, ce qu'on doit en faire. C'est très, très compliqué d'arriver à forcer le verre à faire quelque chose qui est contre sa nature. On ne peut pas faire du carré, par exemple, quelque chose de carré avec du verre chaud. On aura toujours des rondeurs, on aura toujours une sensualité dans le matériau parce que le matériau, il est ainsi et on ne peut pas... si on veut obtenir un cube avec des arêtes, on est obligé de le forcer et de le tailler, de le regraver et repolir à froid, donc vraiment avec quelque chose d'assez violent, quoi.
Comment on explique que le verre, finalement, taillé, poli, ne soit pas devenu une pierre précieuse comme une autre ?
Eh bien...
Il a quand même des propriétés
ouais, peut-être
quand même
c'est
assez
pas,
jolies avec la lumière.
Peut-être que ce n'est pas reconnu comme étant une pierre précieuse. Alors, aujourd'hui, ça a un petit peu changé parce qu'on est un peu revenu sur l'utilisation du cristal. Parce qu'avant, on considérait que le cristal était le matériau le plus noble dans le verre, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus critique par rapport à ça, parce qu'il y a quand même un taux de plomb qui va jusqu'à 33% dans le cristal, alors que le verre, aujourd'hui, on arrive à fabriquer des verres qui ont des éclats équivalents au cristal et qui sont sans plomb, sans arsenic. Donc on avance quand même de ce côté-là. Voilà.
Ces contraintes avec lesquelles vous avez choisi de faire, puisque alors peut-être que le verre s'est imposé à vous, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a un moment, vous avez fait le choix que ce soit votre support d'expression. Comment ces contraintes, elles viennent nourrir votre création, Vincent Bride ?
Bah, je pense qu'on est toujours nourri par les contraintes, par ce qui est impossible, en fait. C'est ce qui nous fait avancer, parce que si on faisait que ce qui était facile, ce qui était possible, ben on ne ferait pas évoluer le monde, on ne ferait pas évoluer la création. Enfin, il n'y aurait pas de création, effectivement, pas de renouvellement. Donc plus on a de contraintes, plus on est obligé de se dépasser soi-même aussi et aller de l'avant.
Qu'est-ce qui permet de maîtriser le verre ? C'est l'intention ou c'est la volonté ?
Alors, maîtriser le verre, c'est d'abord une volonté, une patience, une persévérance. C'est des qualités qu'il faut effectivement mettre à rude épreuve tous les jours pour arriver à dompter le verre.
Si l'on veut découvrir votre travail, Vincent Bride, quels sont les rendez-vous, quels sont les moments qui peuvent permettre de venir vous rencontrer et de rencontrer votre travail?
Alors, on a aujourd'hui des ateliers à Villefranche, donc dans le cadre du projet Verre Morel, où les habitants de Villefranche et de l'agglomération peuvent me rencontrer. Voilà, moi, pendant un an, je vais présenter l'évolution de ma création pour la maison Verre Morel à l'atelier Verre Morel. Donc, il y aura plusieurs temps forts, ou comme aujourd'hui, comme en septembre aussi, et d'autres dates, bien évidemment, pour développer la création.
Merci Vincent Bride.
Mais je vous en prie, merci à vous.
Et puis peut-être au plaisir de se revoir à l'automne.
Eh bien écoute, oui, sans doute, avec plaisir, merci.
J'accueille maintenant Yves Dimier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes peintre calligraphe.
Oui, c'est ça, oui.
Et donc, il y a un travail, une exposition en tout cas, qui est actuellement en cours dans le parc, dont on peut parler, et qui est visible dans le parc. Peut-être on peut même la voir avec des parapluies, c'est pas gênant.
Oui, même ce matin, j'ai eu des messages comme quoi il y a des gens qui y étaient, il faisait beau même dans le parc ce matin. Oui.
Portrait d'arbre forêt imaginaire.
Oui, c'est ça.
Voilà le nom de cette exposition. Et il y a aussi une exposition ici, à la salle des Échevins. Et je vous propose, tout simplement pour en parler, qu'on se déplace, on va faire quelques pas, quitter notre studio, et faire quelques pas pour découvrir ce travail que vous avez fait avec des élèves de plusieurs écoles.
Voilà. Donc, il y a quoi, 5 classes qui ont participé. Donc c'est en parallèle effectivement de ce qui est, vous parliez de ce qui est installé au parc. Au parc, c'est mon travail personnel qui est installé, qui est visible jusqu'au 31 août, hein, qui est installé depuis déjà une dizaine de jours et qui est visible jusqu'au 31 août, pendant tout l'été, et qui devait être inauguré ce matin et qui n'a pas pu se faire vu les conditions météo. Et là, ce qui est ici, c'est ce qui devait être installé ce matin aussi au parc et qui est ici, c'est le travail que j'ai fait avec 5 classes. Deux classes de primaire de l'école Lamartine à Villefranche, une classe du collège Claude B et deux classes de seconde de Claude B également. Et sur ce parcours, en fait, donc il y a à peu près 150 dessins, enfin un peu moins de 150 dessins qui correspondent à un petit peu moins de 150 élèves. Ces dessins correspondent à un parcours d'atelier. On a fait 2 ateliers. Chaque enfant a bénéficié d'un atelier entre 2h et 3h, à la fois pour une première approche du dessin dans le parc Verre Morel, une approche du dessin auprès des arbres, hein, parce qu'on dessine d'après modèle vivant. Voilà, donc là, on fait un travail sur l'observation et le ressenti. Essentiellement, on sort des schémas de représentation, des schémas mentaux qu'on peut avoir, surtout quand on est enfant, hein, sur comment on dessine un arbre.
Oui, c'est très normalisé, hein, le dessin de l'arbre quand on est enfant.
Eh ben oui, c'est pour ça que je leur fais faire un premier travail en classe. Je leur dis, dessinez-moi un arbre et après dessinez-moi un sapin. Alors c'est vrai que pour les sapins, des fois, j'ai même des sapins de Noël avec les étoiles et tout ça. Alors je leur dis, maintenant, on pose ça et on va aller dans le parc et on va dessiner là. On pose l'image de l'arbre que vous avez dans le cerveau, quoi. Et on va vraiment travailler que sur l'observation. Et voilà, donc on remplit un carnet à dessins. Hein, on peut faire 1, 2, 3, 10, 20 dessins. Hein.
Alors, on parle de dessin.
Oui.
Vous, vous êtes peintre, mais aussi calligraphe.
Oui.
Et quand on regarde là, alors on va décrire ça pour la radio, ça va être un exercice intéressant, mais quand on regarde en tout cas les dessins qui sont en face de nous, c'est vrai qu'on a l'impression que certains ont été faits juste d'un seul mouvement. On a quelque chose de très épuré, de très dépouillé. Oui. Et qui, même certains dessins, celui qui est en face de nous, là, actuellement, ressemble presque à un idéogramme chinois.
Ça, oui.
Comment on amène, à un moment, peut-être c'est plus facile avec des enfants, j'ai l'impression qu'avec des adolescents, grands adolescents de seconde ou de première.
Pas forcément, non. C'est un parcours d'apprentissage. Hein, effectivement, on apprend. On apprend à tenir déjà le pinceau, on apprend ce que c'est que de faire l'encre. Enfin, en fait, c'est un apprentissage. comment dire, la calligraphie, une vie ne suffit pas à la connaître. Mmh. Donc, ce n'est pas en 3 heures qu'on peut la connaître et l'acquérir. Et en fait, en 3 heures, on a le temps de découvrir quand même. Parce que je parlais d'un atelier dessin. Après, il y a un deuxième atelier qui est l'atelier encre, où là, on va partir sur un des dessins qu'on a fait dans le parc. Et on va travailler sur ce dessin-là pour retourner dans les émotions. Et comme vous disiez, tracer de manière spontanée, sans retouche, en un seul trait, cette forme de l'arbre, cet aspect de l'arbre. Mmh. Et quand je parle d'aspect... Quand on parle d'aspect, ça fait référence au dessin. Et là, on parle de 150 dessins, mais en fait, ce n'est pas des dessins, c'est de l'écriture. Voilà,
des traces.
Et la trace, justement, alors, c'est ce qui est intéressant, c'est que dans l'écriture asiatique, avant de poser la trace sur le papier, on pose une intention. C'est l'intention du sinogramme qu'on pose. Mm-hmm. Et la forme, finalement, l'intention, elle précède et elle accompagne le geste. Et la forme est qu'une conséquence.
Et pour accompagner ces dessins, il y a des textes qui ont été des textes très courts, dont certains, alors en regardant plus près, certains respectent les règles du haïku, d'autres non, mais en tout cas qui sont d'inspiration comme ça pour accompagner ce qui a été tracé.
Ouais, alors c'était dans le jeu, dans l'accord avec les enseignants. Parce que moi, dans mon travail personnel, quand je travaille sur ces arbres-là, enfin, derrière tout ça, il y a la question du lien à la nature. Il y a mm-hmm. la question du lien à la nature et finalement de considérer que la nature, c'est pas que le décor de nos vies et que pour les gamins, quand on va les dessiner, on est face à un être vivant et on est dans cette notion du ressenti et finalement, on est un être vivant face à un être vivant. Et quand j'installe mes forêts imaginaires, en fait, j'associe toujours moi mes encres personnelles avec... Donc ces dessins qui sont en fait des écrits, hein, qui sont des. Ça fait 20 ans que j'essaie de mettre l'écriture dans le dessin, donc ces formes d'arbres, hein, ces traces, je les associe à des textes. Parce qu'il y a ça fait écho, et ce texte, il parle toujours du lien à la nature, justement. Et ça fait écho, et généralement, les gens qui ont vu ça une fois, ils m'en parlent très, très, très longtemps après. Parce que la puissance, la force de la calligraphie associée à la force et à la puissance des mots, ça donne quelque chose qui est avec une belle résonance et qui peut être assez intense. Et donc, dans le jeu qu'on a, dans le dispositif qu'on a mis en place avec les enseignants, l'idée aussi, c'était que les enfants, les élèves, travaillent sur ce lien à la nature au travers du mot et au travers des texte sous forme d'haïku. Voilà, ils ont joué le jeu.
Allez, juste pour le plaisir, on va en lire un.
Bah, si vous voulez, oui.
Je sais pas, il y en a un qui, comme ça qui vous...
Bah après, il y en a sûrement... Mélancolique, l'automne change les rues en chemin feuillu. Ô arbre d'hiver, que tes branches sans feuilles sentent l'émotion. Bon. Printemps renaissant, la fine rosée des matins éveille la planète. Écorce rugueuse, feuilles dansant avec le vent, arbres majestueux. L'automne ramène l'eau, le soleil me couvre les yeux, les feuilles deviennent jaunes. Un bourgeon s'éveille et sourit au beau soleil de l'après-midi.
Alors ce travail, il est à voir aujourd'hui, ici à la salle des Échevins, c'est la forêt imaginaire.
Oui.
Est-ce que il est prévu qu'il soit à nouveau accroché au parc, à votre connaissance ?
Alors là, je peux pas l'assurer. Ce qui est certain, c'est que cette partie d'exposition va pouvoir circuler dans les établissements scolaires.
D'accord. Ouais. Ça, merci bien en tout cas d'avoir répondu à nos questions.
Merci de m'avoir invité.
Je vous en prie. On poursuit cette émission en musique avec une petite pause bienvenue, un peu pour se mettre de la musique, encore de l'art dans les oreilles. Et on se retrouve juste après avec de nouveaux invités. Merci Yves Dimier, bonne journée à vous.
Che non stiamo al sud. Su due c'è chi nasconde mille cose da dire. Una corona di spine, io una corona alla spina. E si beve subito e non mi lasciare così. Chiedo a luglio per favore non lasciarmi così. Sulla costa lì ho il mole. Ora di fitness con la Lacoste del nonno. Family business, coccodrillo sul taschino. Tu mi salvi dai guai e ne avrò un altro nel giardino. Perché non si sa mai. A volte brillo come Paris, giro come Chaplin. Puoi avere tutto ma cosa che non chiedi. Sarà via Sarà vivi via e giro giro tanto che mi sembra un film. Un zero soldi nelle tasche dei miei jeans. Sarà via Sarà vivi via e giro giro tanto che mi sembra un film. Un zero soldi nelle tasche dei miei jeans. Yeah. Dai. Penso
sto calma, calma. Poi collego i punti di domanda, finché arriva l'alba e chiede stanca. Non li chiudo gli occhi, è buio presto e tu non lo volevi capire. Sono le 5 di mattina e quindi è presto per dormire. Ti basta contare le tue bugie. Al telefono ti attacco e mi chiami sticker. Tic tic tac sulla lingua si sciolgono come ghiaccio ai quali, o come quello nel drink. Dici che vuoi andartene da qui, ma non hai soldi per il T, per il T. Se la vi, se la via, se la vi, via, via. E giro, giro, tanto che mi sembra un film. Non zero soldi nelle tasche dei miei jeans. Se la vi, se la via, se la vi, via, via. E giro, giro, tanto che mi sembra un film. Non zero soldi nelle tasche dei miei jeans. Se la vi, se la via. Se la vi, se la vi, se la vi, via. E giro, giro, tanto che mi sembra un film. Non zero soldi nelle tasche dei miei jeans. Se la vi, se la vi, se la vi, via. E giro, giro, tanto che mi sembra un film. Non zero soldi nelle tasche dei miei jeans. Se la vi, se la vi, se la vi, via. Giro, giro, tanto che mi sembra un film. Zero soldi nelle tasche dei miei jeans, yeah.
Comme dans beaucoup de chansons, ça commence un matin. Comme dans beaucoup de chansons, ça ne va pas très bien. Comme dans beaucoup de chansons, je t'aime encore. Comme dans beaucoup de chansons, je lui vois un beau destin et vise les 3 minutes pour que ça tourne bien. Comme dans beaucoup de chansons, je mise tout sur le refrain. C'est une chanson populaire, ça n'est pas de la pop en l'air. C'est une chanson populaire, un peu pompée sur Julien Clerc. C'est une chanson populaire, faut bien passer sur France Inter. C'est une chanson populaire que j'entendrai chez mes voisins. Dans beaucoup de chansons, il y aura des surprises, des la-la-la joyeux et quelques vocalises. Ouh. Comme dans beaucoup de chansons, il y a la conclusion. Tu ne m'aimes toujours pas et moi j'ai bien l'air con. Comme dans beaucoup de chansons, je suis triste et c'est mignon. C'est une chanson populaire, ça n'est pas de la pop en l'air. C'est une chanson populaire qui sonne un peu Julien, c'est clair. C'est une chanson populaire, faut bien que marchent les affaires. C'est une chanson populaire où tout le monde tapera dans les mains. Dans beaucoup de chansons, il y a le changement de ton juste avant d'arriver au bridge, au pont, le moment un peu lent où on a des frissons. C'est une chanson populaire, ce n'est pas de la pop en l'air. C'est une chanson populaire, en procès avec Julien Clerc. C'est une chanson populaire, dont n'a pas voulu France Inter. C'est une chanson populaire que je n'entends que chez les copains. La 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 la.
C'était Pop en l'air sur Calade. Nous sommes toujours en direct depuis la salle des Échevins pour les rencontres vers Morel. C'est le printemps, donc on était à la saison du printemps et on se rapatrie à l'abri en raison des orages menaçants. Et nos invités maintenant, c'est le collectif LIGRE, L-I-G-R-E-S. Ouais, ça fera sûrement une première question à poser, pourquoi ce nom? Et nous accueillons deux membres du collectif, Thomas Lacroix et Laurent Fléchier. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Je vous ai déjà posé la première question, hein, presque. Ligre.
Alors, ligre. Alors,
qu'est-ce qui se cache derrière ce mot ?
Derrière ce mot, alors le ligre, c'est une hybridation entre un lion et un tigre. Et comme le collectif, c'est justement, il s'agit d'hybrider un petit peu nos pratiques diverses et variées autour du numérique, on s'est dit que un nom qui est un hybride, déjà lui-même, c'était intéressant, tout simplement.
Tout simplement.
Tout simplement. Alors, ce n'est pas forcément l'animal hybride le plus joli, mais...
Ou le plus fréquent, mais justement, voilà.
Je crois que je n'en ai jamais vu. Je ne sais pas à quoi ressemble un ligre, mais j'irai voir ça tout de suite après.
Tout à fait.
J'espère que vous le ferez aussi, parce que ça... Ouais. Je ne savais même pas que c'était possible. C'est vrai que... Mais peut-être ça a un peu plus de gueule, comme on dit, que d'avoir choisi le mélange, un mulet, quoi, entre
ouais,
un âne et un cheval.
Oh, ça aurait pu se faire, ça aurait pu se faire.
Un peu de dérision aussi, mais voilà. Il y en a aussi dans le ligre.
Alors, un collectif, c'est-à-dire que vous êtes en tout 5 artistes. Alors, il y a 2 femmes et 3 hommes. On va citer les absents autour du micro. Donc, il y a Jérémy Barraud, Sabine Brifox et Agnès Moyencourt.
Tout à fait.
Et alors, expliquez-moi un peu l'histoire de ce collectif.
Eh bien... j'ai répondu et nous avons répondu à l'invitation justement de Thomas et de Sabine qui avaient envie de fédérer et de regrouper autour d'eux et de générer une énergie collective autour de la création dans Villefranche et autour, notamment sur des pratiques nouvelles autour de cette hybridation du numérique et de nos compétences. Voilà. Et au départ, on est chacun arrivé avec nos pratiques individuelles et puis ça fait la quatrième année, une troisième, quatrième année. Au fur et à mesure des expositions, des créations, en fait, de plus en plus, on hybride nos pratiques et chacun a augmenté une deuxième ou une troisième casquette en lien avec les autres et en apprenant avec les autres.
Alors, on entend hybridation avec le numérique, avec différents moyens de... Mais pour le moment, on n'a pas encore été très précis. Parce que vous hybridez entre quoi et quoi ? Comment ? Le comment, on a compris, c'était le numérique. Mais qu'est-ce qui est hybridé ?
Qu'est-ce qui est hybridé ? Alors, va y avoir...
Qu'est-ce qu'on a, on va dire, comme ingrédient de base et que vous allez mélanger ensemble ?
Alors, comme ingrédient de base, il peut y avoir plein de choses. C'est-à-dire que Sabine, à la base, est dessinatrice textile. Donc, elle a une pratique, on va dire, du dessin, déjà, à la base. Qu'il soit sur support traditionnel ou justement sur numérique depuis de nombreuses années, puisque sa profession fait que justement ils se sont dirigés vers des outils numériques. En ce qui me concerne, moi je travaille beaucoup l'animation traditionnelle en 2 dimensions, en 3 dimensions aussi. J'ai une expertise aussi sur tout ce qui est réalité augmentée et ce genre de choses, donc que j'utilise moi dans mon travail plus professionnel et donc du coup je l'utilise maintenant dans ma pratique artistique. Et donc du coup, nous deux qui sont un peu plus du côté de l'image, on trouvait intéressant justement d'avoir des gens qui étaient aussi intéressés par l'image mais dont la pratique principale était plutôt autour du son et de la musique. Donc c'est le cas de Laurent et d'Agnès.
Et voilà, et donc nous effectivement, pour rebondir sur ça, ce qu'on peut dire, c'est que toutes nos pratiques initiales sont plutôt dans des médias traditionnels et liés à la photo, au dessin, à la musique composée, acoustique et tout ça. Et donc, le cinquième larron de l'histoire, lui, a une position double puisqu'il a, dès le départ, une formation et de graphiste et de musicien. Mais avec cette même idée...
Lui le ligre, alors.
c'est lui. Et voilà, avec cette idée de s'intéresser... Au son des choses et à la matière des choses de manière très analogique. Voilà, le son du papier, c'est ce qui nous a mené dans le concert de livres. Mais en même temps, dedans, on va y intégrer une couche de supplément, de transformation du son par le numérique. On va travailler sur des nappes qui sont du textile, mais il y a de la réalité augmentée dessus et il va sortir quelque chose de nouveau. Voilà, c'est cette hybridation-là entre de la tradition, de l'innovation, de la modernité, entre des supports physiques, des supports numériques, entre des choses tactiles et puis des choses imaginaires à rêver.
Et alors du coup, quand on vient voir votre travail, on doit s'attendre à quoi ? À une expo, à une installation, à une performance ? Qu'est-ce qui définirait le mieux ou une hybridation de tout ça ?
Tous ces mots-là.
C'est un peu tout ça, oui. Voilà. C'est un peu tout ça. tout à fait, c'est un peu tout ça. Là, en plus, là, dans le cadre des tables Vert Morel, justement, c'était ça qui était vraiment intéressant, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils nous ont appelés, c'est qu'on pouvait justement agir sur ces différentes couches, ces différentes strates. Donc à la fois avoir quelque chose qui était formellement un peu plus classique, un peu plus traditionnel, en tout cas en première approche, et justement d'amener le public à se dire « bah tiens, en fait, je passe mon téléphone devant, il se passe autre chose, et puis après, il y a d'autres propositions qui commencent à arriver. » Donc du coup, ça permet d'accrocher un petit peu les gens sur des choses avec lesquelles ils sont peut-être un peu plus à l'aise, avec lesquelles ils ont peut-être un peu plus l'habitude, et les amener doucement vers le numérique pour justement leur proposer soit la continuation d'une histoire, soit tout à fait autre chose.
Est-ce que la réalité augmentée, à un moment, elle vient finalement permettre à tout le monde d'avoir une autre lecture des œuvres? Parce que vous savez, parfois, on va voir des expos de peinture, on se met devant des tableaux, et puis, soit il se passe quelque chose, soit il ne se passe rien, mais on a toujours des gens qui s'extasent, qui ont l'impression d'avoir presque lu un livre en regardant un tableau. Et parfois, ça peut être frustrant pour certaines personnes qui ne voient qu'une trace de couleur sur une surface.
Oui,
ou sur des choses. Et là, en réalité augmentée, il se passe vraiment des choses quand on passe.
Alors peut-être ce que je peux dire, c'est que il se passe des choses, mais justement notre propos, c'est pas forcément de donner une lecture documentaire. C'est-à-dire, c'est pas une explication, c'est une autre couche, c'est une autre couche imaginaire, c'est une autre réalité qui des fois d'ailleurs peut être aussi énigmatique que la première couche. Mais par contre, effectivement, elle donne au spectateur une occasion de tenter une deuxième lecture, et puis un autre sens va être touché. Voilà, et donc c'est ça que ça permet.
C'est presque une synesthésie plutôt dans ce sens-là.
Oui, total. Oui,
tout à fait. Oui.
C'est-à-dire, à un moment, on va regarder une photo qui va se mettre soit à chanter, à jouer, ou à parler.
Jouer, à bouger, pas. À parler.
Voilà. Moi, c'est qui fait plus de photos dans le collectif. Voilà, c'est vraiment une question que je me pose sur qu'est-ce que la réalité augmentée va apporter à cette histoire de ce rapport entre une photo qui va être fixe et puis qu'est-ce qu'elle peut raconter de plus elle-même, ou sur son environnement, ou sur ce qui se passe autour, voilà. Mais c'est infini, parce qu'il y a de l'animation, il y a du graphisme qui peut se rajouter, il y a du son, c'est la limite, c'est notre imaginaire. Donc,
C'est assez complet, et puis moi ce que je rajouterais en plus, c'est qu'on a quand même besoin d'avoir une œuvre physiquement présente. Mmh. Pour pouvoir voir justement la couche supplémentaire. Mais il faut que cette œuvre soit toujours là. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme on pourrait le voir actuellement sur les NFT, etc., où on a besoin que du téléphone ou que de son ordinateur. Là, il faut vraiment les deux. Donc, c'est ça que je trouve intéressant, justement, c'est qu'on garde quand même un petit peu les habitudes, on va dire, de l'ancien monde, entre guillemets, en rajoutant justement une couche où on peut amener sur des choses un peu plus actuelles. Donc, c'est un petit mix entre les deux qui, moi, me paraît un peu plus pertinent.
Qu'est-ce que ce travail au sein de ce collectif et du coup cette hybridation entre ces différents supports d'expression par rapport à vos supports, j'allais dire, préférés, qu'est-ce que ça vous a apporté, alors soit comme peut-être nouveau regard sur la musique ou comme nouvelle écoute sur l'image?
Oh, de nouveau, non.
Je vois que vous avez pris une grande respiration.
Oui, mais je réfléchis aussi un petit peu en même temps. Non, mais c'est des problématiques qu'on peut se poser depuis un certain nombre d'années. Moi, personnellement, ça fait à peu près... Allez, lançons le truc. Ça fait à peu près 30 ans, moi, que je travaille dans le numérique. Et je suis arrivé, justement, au tout début du CD-ROM, etc. Donc, c'était vraiment la convergence, le moment où il y avait enfin cette convergence, justement, entre les différents médias. On pouvait enfin prendre de la vidéo, prendre de la photo, prendre des dessins, remixer tout ça, rajouter du son, etc. etc. Et justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on est maintenant pleinement, et du coup le public est aussi mûr pour ça, dans un moment où on peut faire converger tout ça. Et c'est ça que je trouve intéressant.
Et sur
un deuxième plan, ce qui est assez magique, ça c'est sur le plan technique effectivement, ou média ou artistique, et il y a un plan humain qui est absolument fondamental, c'est que c'est une expérience collective, c'est réellement un collectif, c'est-à-dire que ça se fait avec des gens dans la rencontre, dans la construction collective, et moi c'est ça que ça m'a apporté, c'est-à-dire cette folie de se dire allez, on tente le truc ensemble, quand on a un souci, il y en a un autre qui trouve une solution ou qui amène un autre justement regard ou écoute,
on croise les regards,
et vraiment l'hybridation elle est dans dans le travail collectif. Et donc, cette convergence dont Thomas parlait d'un point de vue technologique ou artistique, on essaye de la construire aussi d'un point de vue humain et collectif. Et c'est assez magique.
On entend souvent cette phrase qui dit « Ensemble, on va moins vite, mais on va plus loin ». Est-ce que c'est vrai dans le travail artistique en collectif ?
Alors, moins vite, je suis pas sûr, mais parce qu'il faut quand même trouver des solutions, faut expérimenter, et puis après ça dépend des calendriers effectivement, puisque quand on a des expositions, quand on a des commandes, il faut trouver des solutions et gérer ce temps-là qui vient puisque ce temps artistique vient en plus de nos autres activités.
Ce qui est particulier dans la création collective, parce que c'est ça dont il faut parler, c'est que il y a quand même des moments où il y a quelqu'un qui décide ou qui fait un choix. Voilà. Donc effectivement, c'est un équilibre précaire entre la mise en commun de compétences et l'hybridation des cerveaux qui cherchent des idées et tout ça. Et à un moment, il y a quelqu'un qui va prendre un chemin en disant « c'est là qu'on va » ou « c'est là que je vais » et qui se saisit d'une... voilà, il y a eu plusieurs œuvres là qui sont exposées ou sur lesquelles on a travaillé où on a tous cherché et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui prend le fil et qui dit bah maintenant c'est moi qui l'emmène jusqu'au bout et donc voilà, donc c'est ce fil là et ça je trouve ça passionnant d'inventer ça.
En tout cas votre travail est visible aujourd'hui ici à la salle des échevins, donc c'est mieux de venir avec un smartphone quand même.
Oui.
C'est conseillé.
Même si on en a à disposition hein, au cas où.
Au cas où, ah d'accord, c'est quand même prévu mais oui. C'est bien de venir avec le sien.
Ouais. Voilà. C'est toujours mieux, oui.
En tout cas, merci Thomas Lacroix et Laurent Fléchier du collectif Ligre. Vous étiez les porte-parole, je rappelle le nom de toutes les personnes, donc de Jérémy Barou aussi, de Sabine Brifox et d'Agnès Moyencourt.
Merci.
Merci.
Une petite pause musicale avant de recevoir notre prochaine invitée sur Calade.
Je me promène dans la rue, phénomène délirant. Un défilé d'inconnus au profil différent. Chacun de son point de vue regarde l'autre fixement. Avant de devenir moi, j'aurais pu être qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. J'aurais pu être qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. Je discute avec qui que ce soit. Mon point de vue est gratos, je le donne à qui que ce soit. Union devant le matos, ça balance du qui que ce soit. Que je connais, que d'amis que je connais pas. Qui que ce soit qui apparaît peut s'ériger en ami. Les gens que je croise dans la vie rendent l'amour accessible. Ils me débouchent la vue, l'élargissent x fois, c'est pour ça. Je suis ouvert à qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. J'aurais pu être qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. D'où que tu viennes et qui que tu sois, ramène-toi avec qui que ce soit. On remet le qui que ce soit. De moi n'est qu'une version de toi, bifurqué au fil du temps vers un perso différent. La vie s'installe dans des corps dont la forme n'est qu'accessoire. Un destin de cas social, ça arrive à qui que ce soit, c'est pour ça. Reste ouvert à qui que ce soit, rappelle-toi, t'aurais pu être qui que ce soit. Des vêtements pour qui que ce soit, à manger pour qui que ce soit, un terrain pour qui que ce soit, de l'amour pour qui que ce soit. Les gens changent de visage, ils deviennent qui ils sont. Chaque instant à tous les âges, c'est une nouvelle émotion. Qui je suis, je ne sais pas, c'est le cas de qui que ce soit. Quoi que tu portes et qui que tu sois, sache que je kiffe ton style ce soir. Style ce soir, style ce soir, je le dis de vive voix. Vive voix, vive voix, je souris à qui que ce soit. Qui que ce soit, qui que ce soit, on se remet le qui que ce soit. C'est pas plus compliqué que ça, reste ouvert à qui que ce soit.
100.9.
Nous sommes toujours en direct de la salle des Échevins, Villefranche-sur-Saône, pour les rencontres de Vermorel, de la maison Vermorel. Avec aujourd'hui, il y avait un événement qui s'appelait les tables Vermorel, alors plutôt autour de la dimension gastronomique et la culture culinaire. Et j'ai le plaisir d'accueillir à notre studio le chef Christian Tête-d'Oie.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Dans la cuisine, on dit bonjour chef souvent.
C'est vrai.
Ça fait partie
des codes un petit peu.
Des codes, mais c'est surtout en fait... Quand le chef dit quelque chose, on dit oui chef, comme ça le chef il est sûr que tout le monde a entendu.
Oui, ça c'est vrai que c'est très important qu'il puisse exprimer le fait d'avoir compris ce qu'on leur a dit. Donc on attend effectivement quand on donne un ordre qu'il y ait un oui chef derrière.
Vous avez quitté votre restaurant
Oui. Pour
venir ici à Villefranche-sur-Saône travailler autour de ce beau projet de la maison Vermorel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots cette collaboration entre vous et puis ce projet?
Alors on a commencé les réunions au mois d'octobre l'année dernière, 2022, et donc les équipes de la communication de la ville s'étaient rapprochées de Jean-François Mesplède, l'ancien directeur du Guide Michelin et toujours journaliste gastronomique, même s'il est un petit peu à la retraite quand même.
On a eu le plaisir de recevoir cet automne dans une émission au Parc Vermorel.
Et donc, il nous a aidé à réunir les chefs caladois. Et donc, moi, je suis intervenu effectivement pour donner un petit peu le là sur cet engagement sur le végétal. Voilà, donc nous avons fait une réunion par mois pour mettre tout ça en place, parce que quand même on a eu des activités tous les soirs de la semaine, donc j'ai été caladois toute la semaine et j'avoue qu'il y a eu de très beaux échanges, des gens très engagés, donc j'ai eu aussi le plaisir d'accueillir des jeunes au CFA de la gastronomie à la Croix-Laval, donc du lycée Jean Moulin et du lycée le Louis Armand, et donc j'ai eu une classe de 16 et une classe de 24. Et on a pu ensemble leur faire voir les trois recettes qu'ils avaient à réaliser ici même, mardi après-midi, pour leurs parents. Donc c'était un joli moment parce qu'ils ont vraiment travaillé, c'était chouette.
On sait que ça fait partie du projet de la Maison Vermorel, la transmission, que c'est important. Et en cuisine, en gastronomie, la transmission aussi, c'est quelque chose de primordial. Ah oui. Parce que c'est comme ça qu'on apprend le métier.
Moi, je dis toujours que la transmission dans la restauration, c'est un devoir. Le chef qui a eu la chance qu'on lui transmette le savoir, il a le devoir de le transmettre à son tour. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé mon école, parce que c'était pas pour faire comme plusieurs autres chefs qui l'ont fait, comme Paul Bocuse, comme Gilles Robuchon. C'était juste parce que il me paraissait important aujourd'hui d'être plus à l'écoute des jeunes et donc d'identifier quelles étaient leurs attentes. Donc, j'ai changé grâce à la loi Macron 2018, le rythme d'alternance. Ils sont pendant un mois et demi au château en immersion totale et après ils vont dans l'entreprise. En fait, l'idée c'est de les préparer à rentrer dans l'entreprise. Ça évite qu'ils se prennent un petit peu des
le
coups,
principe
des,
de réalité en, en pleine figure, c'est ça.
Voilà, des éclats de voix, des moqueries et donc ça permet aussi, puisqu'on a beaucoup de cours en distanciel, de les préparer à maîtriser l'outil informatique. Voilà. Donc on a eu déjà 110 élèves pour cette année et puis j'espère qu'on va dépasser ce chiffre l'année prochaine.
Vous parliez, Christian Tédois, des chefs qui ouvrent des écoles. Mmh. Et est-ce qu'à un moment, quand on est cuisinier, quand on est chef de cuisine et qu'on développe son métier, on développe aussi une identité qui nous est propre et une vision de ce que doit être la cuisine? Et est-ce que c'est à ce moment-là que germe le besoin de créer une école pour transmettre en tout cas son éclairage, sa vision et son approche de ce que doit être la cuisine?
Très bonne question. C'est vrai que le parcours on va dire initiatique d'un chef, il est assez long. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma première place de chef à 21 ans. Et ça m'a donné un petit peu d'avance peut-être sur d'autres chefs, parce que de trouver son style et trouver sa voie ou son chemin, c'est pas toujours si simple. Et puis il faut toujours avoir les yeux et les oreilles grands ouverts pour sentir l'évolution, les attentes des gens. Et moi, effectivement, il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte que on était vraiment au pied du mur. Maintenant, on est carrément dans le mur. Hein, donc, mais à l'époque, on était encore au pied du mur. Et donc, je me suis engagé à aller plus vers le végétal, à recréer du lien entre les producteurs et les cuisiniers. C'est pour ça que j'ai créé une application qui s'appelle Mes producteurs, mes cuisiniers. Et donc, et mettre en place donc, cette fameuse restauration durable avec tout ce que ça implique. Parce que bon, bah, souvent, les gens pensent que c'est parce qu'on fait un sourcing un petit peu plus près de chez soi, etc. Oui, bien sûr que ça en fait partie, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi revoir tout son système d'éclairage, son système de chauffage, la façon dont on retraite les déchets. Voilà, il y a tellement de sujets qui les arts de la table qu'on choisit, le linge qu'on choisit, enfin voilà, tout
peut-être
est sujet
tabou,
à questionnement.
Mais est-ce qu'on revoit aussi peut-être l'énergie qu'on consomme pour la cuisson?
Oui, alors justement alors, donc, ça vous le savez peut-être pas, mais j'ai inventé un concept de cuisson il y a déjà 13 ans et grâce à la crise Covid j'ai pu le mettre en route parce que figurez-vous que mon entreprise a été réquisitionnée par l'État pour faire du gel hydroalcoolique puisqu'on a la maîtrise de l'alcool. Et donc, depuis 2021, on a créé une nouvelle société qui s'occupe de développer justement ce modèle de cuisson à base d'alcool végétal. Donc, je fonde beaucoup d'espoir parce que ce qui est formidable avec ce process, c'est que la dose d'alcool définit le temps de cuisson. Donc, il n'y a pas de gaspillage d'énergie et il n'y a pas de possibilité d'erreur de cuisson.
C'est presque,
c'est magique.
J'allais dire comment, les nouveaux robots là, qui font tout à notre place, mais écologique.
Oui. Voilà, complètement.
Aujourd'hui, Christian Tédois, qu'est-ce que, en quelques, alors je vais vous demander quelque chose qui n'est pas forcément facile, mais en quelques mots, voilà, peut-être en quelques mots clés, comment vous pourriez définir votre identité culinaire, votre approche de la cuisine, votre philosophie peut-être, on peut dire aussi, de la cuisine?
Premier mot qui me vient à l'esprit, c'est instinctive. Parce que, effectivement, je pense avoir ce petit talent de sentir le bon produit au bon moment, à bonne maturité. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de carte au restaurant. On travaille vraiment au coup de cœur du produit. Donc, on peut avoir un produit pendant quelques jours, puis après, on passe à autre chose parce qu'on veut vraiment sélectionner que ce qu'il y a de meilleur. Donc, voilà. Donc instinctive, généreuse parce que bien sûr, bah, la cuisine sans générosité. Donc je confesse que je suis un dingue d'huile d'olive, de beurre, de crème, voilà, parce que ça affine les goûts et je pense que ça apporte un vrai plus. Et puis végétal bien sûr, puisque du coup moi je suis très engagé effectivement.
Pour autant, est-ce que c'est antinomique avec la santé d'aimer l'huile d'olive, le beurre?
Non, tout dépend comment on l'utilise effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je fais beaucoup de conférences, notamment sur la malnutrition, puisque malheureusement beaucoup de gens détruisent leur nourriture par des mauvaises cuissons. Et effectivement, si on pousse toutes les matières grasses au-delà d'une certaine température, eh bien, on développe ce qu'on appelle des néoformes cancérigènes. Et donc, ça devient néfaste pour la santé, alors qu'autrement, c'est très bon pour la santé.
Votre invitation, c'est qu'on arrête de faire à manger et qu'on commence à cuisiner, alors?
Oui, 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 oui. Je crois que malheureusement, la vie moderne dans laquelle on s'est installé il y a une quarantaine d'années, avec bien sûr la nécessité que les femmes travaillent aussi, on fait qu'il y a tout un pan de transmission qui ne s'est pas opéré dans les familles et du coup bon, le tir est en train d'être rectifié avec notamment les blogs, enfin tout ce qui peut exister qui permet aux gens de se reconnecter un petit peu avec un peu plus de connaissances, mais il y a encore du boulot à faire. En fait, la cuisine c'est plus que des recettes. Et ça, c'est une phrase d'Alain Chapelle. Et je pense que vraiment, il a tout à fait raison, quoi. La cuisine, c'est avant tout la maîtrise des cuissons. Et ça, c'est extrêmement important.
Et on en parlait juste avant. Vous me disiez à quelle sauce vous allez être mangé. Je vous ai dit juste un peu d'assaisonnement, la maîtrise de l'assaisonnement aussi.
Oui, oui, ben ça, c'est sûr qu'on dit que le sel est le catalyseur de la cuisine. Et c'est tellement vrai. C'est sûr que ça exauce tous les goûts, c'est comme les épices, enfin voilà. Donc il faut un peu de tout, mais avec maîtrise.
Vous allez proposer dans quelques minutes une conférence ici à la salle des Échevins. Alors, il est encore temps pour nos auditrices et nos auditeurs de nous rejoindre ici à la salle des Échevins pour vous écouter. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques... faire peut-être comme une petite introduction pour donner envie de venir et de savoir de quoi il va être question.
Je me mets mes carreaux parce que... voilà, en fait, je vais parler vraiment de cette gastronomie responsable et durable qui est vraiment... Donc je vais juste vous donner la première phrase. La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. C'est une phrase de Brillat-Savarin et elle est tellement vraie. Je crois qu'aujourd'hui, On a perdu un petit peu de notre superbe, de notre maîtrise de la cuisine française. Il faut qu'on la retrouve.
Tout simplement.
Tout simplement.
Et peut-être tout en simplicité aussi, peut-être.
Oui, alors la cuisine française, ce qui est formidable avec elle, c'est qu'elle évolue tout le temps, en partie grâce au chef. Enfin, je ne veux pas m'attirer tous les mérites, mais c'est vrai qu'on est quand même assez obsessionnel de vouloir toujours chercher la bonne recette, la bonne cuisson, le bon produit. C'est quand même, malgré tout ce qu'on peut entendre à travers le monde, la cuisine qui se remet en question en permanence.
Allez, je vous propose une petite question sans filet, comme ça. Imaginons là que je vous demande une recette à partir de produits sauvages qu'on va récolter, si on partait en balade et qu'on va récolter des choses. Qu'est-ce qui vous ferait envie comme ça tout de suite ?
Ah, mais là, je suis à fond dans la cueillette en ce moment. Il y a beaucoup de feuilles qu'on ne sait pas qu'elles sont comestibles. Et les feuilles de plantes, hein. Vous n'allez pas cueillir des feuilles d'arbres, s'il vous plaît. renseignez-vous, il y a beaucoup de feuilles de plantes qui se mangent. Et j'aime bien les mettre en rouleaux, comme des rouleaux de printemps, avec une vinaigrette, avec des fleurs, là, les premières fleurs de printemps, qui sont pleines de sucre. Et vraiment, c'est juste génial.
Et pourquoi pas relever avec un petit peu une... Alors maintenant, c'est un peu tard, elles sont passées, mais une belle fleur d'ail des ours.
Ah bah oui, non, si, il y en a encore. Il y en a encore. Mais c'est vrai que hier soir, je me suis fait une petite fricassée de champignons avec juste quelques fleurs d'ail des ours. Et puis un petit peu d'arroche. Je ne sais pas si vous connaissez l'arroche, c'est l'ancêtre de l'épinard. C'était un vrai moment de bonheur.
Merci Christian Tête-d'Oie pour cet entretien.
Je vous en prie.
Et puis bonne conférence à vous.
Merci.
Au plaisir. Merci de nous avoir suivis sur Radio Calade, en direct depuis la salle des Échevins pour ces rencontres des saisons de la Maison Vermorel. C'était l'édition du printemps. Je tiens à remercier Mathieu Roar qui a réalisé cette émission en direct depuis la salle des Échevins et Patrick Gervais qui a assuré la bonne organisation de cette émission et qui a permis que tout ça soit très fluide. Restez à l'écoute de nos programmes. On continue cette belle journée de dimanche en musique sur Calade.
Calade 100.9.
On the chaise long.